Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous hein, pour cette deuxième émission Mon Paris Sport du lundi 15 janvier. Alors je suis entouré de toute l'équipe que je suis content de retrouver. On va commencer avec d'abord Laura. Bonsoir Laura, ça va ?
Bonsoir, oui, super.
Pleine forme ?
Ouais.
Hein, bonne année d'ailleurs ?
Ouais, bonne année.
Hein, on va en profiter. Bonne année aussi à Vanessa, que je salue.
Merci, bonne année ouais. Philippe, et bonne année à tous.
Voilà, elle est venue nous annoncer de bonnes nouvelles, Vanessa, avec un deuxième titre de champion d'Europe pour le patinage artistique français. On en reparlera tout à l'heure. Et puis Benoît, que je salue, qui vient nous parler de sa rubrique MMA.
Bonne année tout le monde. Ouais, voilà. Merci de vous retrouver, ça fait plaisir.
Voilà, donc on va saluer naturellement tous nos auditeurs. On va leur souhaiter une belle et heureuse année 2024, belle heureuse et année aussi à Jason et puis donc à Léonard hein, qui sont aux manettes derrière cette émission chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc on est ravis d'être avec vous pour vous faire vivre donc cette émission Omnisport. Alors on s'était quitté nous il y a à peu près un mois avec le bilan de l'année sport 2023. On y reviendra très brièvement. La semaine dernière on s'est mis en condition avec l'ami Malik pour tout savoir sur la Coupe d'Afrique des Nations. On va continuer dans l'heure des bilans. On est allé faire un petit bilan sur ce qui s'est passé sur Paris et dans notre arrondissement. C'est tout juste, c'était il y a encore quelques heures, hein. On est allé rencontrer le maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse du 13e arrondissement, Eman Bassouini. Et écoutez, voilà, c'est le bilan qu'on a fait et on a parlé non seulement de 2023, hein, de tout ce qui s'est passé et ce qu'on a vécu de très fort, et surtout de cette grande et belle année 2024 qu'on va vivre, qui va être encore beaucoup plus forte. On écoute Eman. Allez, je suis avec Eman Bassouini. Bonsoir Eman, merci de nous recevoir, maire adjoint donc chargé des sports et de la jeunesse dans Paris 13e. Eman, c'est l'époque des vœux. Alors d'abord, quels vœux peut-on formuler d'une façon générale pour cette année 2024 ?
Alors déjà, merci pour l'invitation, Philippe. Je suis très très heureux d'ouvrir en fait finalement Mon Paris Sport, une émission que je suis pas mal. Hein. Et puis bonne année à toi, bonne année à toutes et tous. Et le premier vœu que je ferais, ce serait de la santé. La santé, parce que si la santé va bien... on peut un peu s'en sortir. Et puis une bonne année sportive, oui. Parce que on est en 2024.
On va être gâté,
très gâté. On l'était déjà, mais on va l'être encore plus cette année parce que de nombreuses choses nous attendent. Et donc on a évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais on a tout un tas d'autres choses dont on va parler, j'imagine, pendant l'émission.
Alors, quel est d'abord le bilan de cette année 2023 hein ? Tu l'as dit, on a été particulièrement gâtés, mais d'une façon générale déjà pour les associations sportives que nous recevons la plupart du temps, est-ce que finalement ça a été une belle année ? Est-ce qu'on a retrouvé les licenciés, les pratiquants d'avant Covid ?
Oui. Franchement, la situation s'est bien rétablie. On commence même à pencher vers encore plus du positif. Donc, c'est vraiment encourageant. Il y a un vrai élan. Je pense qu'il y a un effet JO, mais pas que. C'est que les gens, après le Covid, ont pris conscience aussi que le sport doit prendre de plus en plus une part importante de leur vie. Ça prend de plus en plus de place dans la vie des gens, donc on peut que être content et encourager ça et continuer à développer ça. Sur ce qui s'est passé sur l'année 2023, alors sur les équipements, un grand nombre de choses ont été faites dans le 13e. On peut être très content, c'est qu'on a rénové quand même un grand nombre d'équipements. Par exemple, beaucoup de revêtements de terrain de foot, on en a rénové deux précisément cette année, avec également un terrain de rugby. On a rénové deux terrains de basket au centre sportif Charles Moureux. Donc avec des fresques de street art que je vous invite à aller voir, qui sont magnifiques. On a rénové aussi, on est en cours de rénovation aussi dans la piscine Butokai, qui va fêter cette année ses 100 ans. Donc on va pouvoir fêter cela tous ensemble. D'ailleurs, ce sera un événement porté par la mairie du 13e. Et puis on a également au côté jeunesse aussi, on a rénové un certain nombre de centres Paris-Animes. Pour le tennis de table aussi à Carpentier, on a pu développer un grand nombre de tables de tennis de table en extérieur. Ce sont des créations. On a rénové des vestiaires, on est en cours de rénovation aussi sur les tribunes de Carpentier. On a rénové des locaux à Marcel Cerdan, mais ce n'est que le début. On va continuer, hein, juste à côté d'ailleurs du studio. Et puis, on va continuer à poursuivre tout ça. Après, voilà, il y a des petites choses habituelles, les mâts d'éclairage, etc., qui ne comptent pas trop aux yeux des gens, mais qui sont importants parce que sans ça, en fait, on peut pas jouer et on peut pas s'éclairer pour jouer le soir et tout simplement aussi faire de la compétition.
Alors, on sait que le 13e arrondissement est un département très riche au niveau culturel, au niveau pratique sportive.
Oui, très riche, il n'y a pas que la mairie qui fait des choses, hein, c'est principalement les acteurs du 13e, hein, qui œuvrent dans les différentes animations sportives. Donc voilà, je vais me répéter par rapport à l'an dernier, mais on a un certain nombre de clubs quand même qui font du sport de haut niveau, donc ça offre.
On va en parler.
Ça offre en tout cas de belles animations sportives, de belles compétitions, de beaux matchs. Et puis on a aussi des choses qui font un peu l'identité du 13e, parce qu'on aime bien se démarquer un petit peu des autres, c'est-à-dire que il y a des événements qui sont assez anodins, qui se démarquent un petit peu. Par exemple, il y avait un festival des fiertés qui s'est déroulé il y a quelques mois, à la fin de l'an dernier, et donc on a pu faire du badminton dans le noir. Avec des habits flashy et faire du badminton dans le noir, voilà, c'est pas ce qu'il y a d'habituel quand même. Et enfin voilà, tout un tas de choses de ce type-là et qui vont se poursuivre et se développer encore.
Et est-ce qu'il y a des sports qui souffrent quand même malgré tout?
Alors, des sports qui souffrent
au niveau des effectifs, de ses moyens, de ses licenciés?
Très honnêtement, là où on souffre le plus, c'est même pas, c'est plutôt dans le sens positif, c'est-à-dire que en fait,
il y a trop de monde.
Les gens veulent vraiment faire du sport, donc du coup, on essaye de répondre à la demande aussi au niveau des infrastructures sportives, ce qui n'est pas simple, parce que les choses, ça, quand on les réalise et quand on les crée, ça se fait sur du moyen ou du long terme. Sur du très court terme, c'est très compliqué. Par exemple, pour vous donner un exemple très précis, sur les piscines, sur la natation, on est à Paris en pénurie de bassins. C'est pour ça qu'avec le maire du 13e, on a décidé de proposer une création d'une nouvelle piscine au centre sportif Carpentier. Donc on travaille dessus, c'est en cours, c'est financé, et donc les études sont en cours, et donc c'est quelque chose qui va voir le jour dans un certain nombre d'années, hein, pas dans trop longtemps non plus, je dirais à horizon 2027, grosso modo. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas on est vraiment en saturation, et donc on essaye de développer plus de créneaux. Pour vous donner un autre exemple, c'est que on est en train de travailler sur la réouverture du TEP Dunois, qui est tant attendu par les habitants, qui était un endroit en accès libre où on pouvait faire du football et du basketball. Là, et comme il a été fermé pour des raisons de nuisances sonores, parce que tout autour il y a de très hautes habitations, donc ça faisait une résonance telle que le voisinage était très gêné par le bruit que faisaient les gens en faisant du sport, et donc on a décidé de le couvrir et de créer un nouvel équipement, une halle sportive qui permettra du coup de contenir le son et permettre aux gens de continuer à faire du sport sans gêner le voisinage, et en fin de compte de créer de nouveaux créneaux pour répondre du coup à cette demande de la part des clubs.
Est-ce que le fait qu'il va y avoir les Jeux cette année sur Paris, ça aide à créer toutes ces nouvelles infrastructures?
Oui, bah pour donner un exemple, on a un des deux terrains de basketball au centre sportif Charles Moreux. Grâce à l'héritage des Jeux, on a pu rénover un de nos terrains. On a un autre terrain dans le cadre de l'héritage des Jeux de basketball qui est situé sous le métro aérien boulevard Vincent Auriol, qui a été rénové du coup par des fonds de partenaires de Paris 2024. Voilà, donc il y en a un autre aussi à Charles Moreau aussi, c'est l'autre, mais donc du coup là c'est moi qui ai plus bossé, on va dire, auprès d'un autre partenaire qui travaille avec un de nos clubs et qui du coup a gentiment accepté de financer une opération parce que nous on a des sous bien évidemment, mais on priorise ces sous et donc voilà, en fait les jeux c'est un accélérateur de rénovation et de création de nos infrastructures. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'héritage, parce que ça va laisser quelque chose après.
Oui, parce que beaucoup craignent qu'après 2024, ça s'arrête, que ce soit au niveau du sport handicap, du sport au féminin, du sport à l'école. Beaucoup doutent pour que ensuite ça perdure.
Bah, on a tout un tas de dispositifs qui se sont développés aussi à travers les jeux, donc notamment développer la pratique féminine, le handisport, tu l'as dit, mais ce sont des choses qui vont aussi rester en héritage. Donc ça veut dire que on aura développé ces choses-là à travers les jeux, mais ça continuera à se développer par la suite parce que voilà, ce sont des sujets très importants et qu'on se doit de continuer de développer la pratique féminine. Voilà, c'est quelque chose de très particulier parce que, par exemple, sur le basketball, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui s'inscrivent pour faire du basketball féminin. Donc, c'est toujours très difficile pour une femme d'aller dans un endroit en accès libre et de ne pas être dérangée par des mecs qui ont une présence telle que, du coup, bon, elles n'osent pas trop y aller. Donc, du coup, ces dispositifs permettent d'imposer finalement les femmes sur les terrains. D'ailleurs, le dernier terrain de basket qu'on a rénové, sur la fresque, c'est une femme qui joue au basket. Donc, c'est symboliquement. Voilà, ça veut dire ça aussi. Et puis, autre chose, c'est le sport, ça permet aussi aux femmes de développer certaines facultés par rapport aux hommes. C'est-à-dire que, par exemple, le self-défense, on peut faire. Il y a un dispositif Paris Sport féminin, Paris Sportive, ça s'appelle exactement, qui propose gratuitement des cours de self-défense. De boxe au parc Kellermann ou au TEP Bourneville Kellermann ou à Carpentier. Enfin voilà. Et donc ça, on le fait aussi à travers nos clubs, évidemment, parce que ce sont eux les expérimentés, les spécialistes hein, de ces pratiques-là. Mais voilà. Et là où on a vraiment de la chance, et particulièrement dans le 13e, c'est que nos clubs sont très engagés sur ces sujets-là.
Alors, il y a aussi le bilan d'avoir accompagné de grandes compétitions. Il y a eu deux grandes compétitions, notamment, qu'on a suivies. Ça a été les paramondiaux d'athlétisme, hein, même s'il n'y a eu que quatre médailles de bronze. Et puis ensuite, la Coupe du monde de rugby fauteuil, où l'équipe de France a échoué donc au pied du podium. Ça a été deux grands événements que le 13e a accompagnés fatalement.
Oui, tout à fait. Donc, l'un à Charletti pour le premier et l'autre à la Halle Carpentier. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'on a pu amener un certain nombre d'enfants, de gamins du 13e, en fait, pour assister à être spectateur de ces pratiques-là, mais aussi à s'essayer à ces pratiques-là. Donc, il y a eu des initiations qui ont été faites, des sensibilisations, et je crois, en tout cas, que ça a apporté quelque chose. Après, il faut qu'on continue, bien évidemment, hein. Faut pas qu'on le fasse uniquement quand il y a des événements particuliers comme ça. Mais en tout cas, ça a eu son succès parce que, par exemple, la Halle Carpentier était mais remplie à craquer, quoi.
Avec une finale donc sur Bercy, il y a eu d'autres grands événements en dehors de ces deux énormes événements sportifs.
Ce sont les deux grands événements sportifs qui se sont déroulés dans le 13e, dans mon souvenir. Après, bon, voilà, on avait la Coupe du monde de rugby tout court aussi, mais on n'a pas eu de discipline ici. Mais nous, on a essayé de faire vivre aussi le rugby dans le 13e. Et donc, avec Jérôme Coumet, on avait proposé de diffuser sur écran géant à Carpentier, sous un air festif, les différents matchs de l'équipe de France. Et donc, les gens étaient au rendez-vous et il y avait une effervescence. Bon, malheureusement, ça n'a pas terminé comme on le voulait. On est un peu dégoûté, mais en tout cas, c'était quand même une belle Coupe du Monde et on peut être très fier de l'équipe de France.
Alors, 2024 est là, donc effectivement, ça va être une année encore plus dense, plus forte, avec les Jeux Olympiques. Le 13e va être d'abord très concerné par le passage de la flamme olympique. Hein. Là, on ne va pas oublier le 13e à travers le passage de la flamme.
Ah, ça c'est sûr, parce qu'en plus, le parcours de la flamme est vraiment sympathique et qui montre vraiment les belles facettes de Paris et tout ce qu'elle a de plus beau. Et dans le 13e en particulier, on va mettre en avant notre identité. Et ce qui fait qu'on est le 13e, c'est que la flamme olympique va parcourir tout le musée à ciel ouvert du street art, boulevard Vincent Auriol. Ça va passer par Butokai aussi, donc le quartier latin du 13e. Et pour la flamme paralympique aussi, il y a des symboles. C'est-à-dire qu'on a deux lieux discontinus. Donc il y en a un qui sera sur la passerelle Simone de Beauvoir. On pourra voir du coup la BNF et bien évidemment la piscine Joséphine Baker, la fameuse piscine sur la Seine. Et puis l'autre lieu, c'est la manufacture des Gobelins. Un lieu qui est un peu méconnu et qui mériterait d'être un peu plus connu parce que c'est là où en fait on fabriquait les grandes tapisseries à l'époque de Louis XIV. Donc c'est un lieu vraiment historique et donc voilà, ça fait partie de notre patrimoine et c'est dans le 13e.
Alors, retenez bien les dates.
Ah bah oui, il faut bien retenir les dates.
Il faut dire à nos auditeurs, il faut qu'ils retiennent déjà leurs dates.
Bah oui, et le parcours de la flamme, donc du coup, pour le 13e arrondissement, ce sera le 15 juillet, précisément.
Elle arrive à Paris le 14.
Exactement, donc elle fera la première partie le 14 juillet, et la seconde partie, dont le 13e, ce sera le 15 juillet. Et la flamme olympique parcourra à nouveau Paris, mais du coup à travers la Seine pour la cérémonie d'ouverture qui se déroulera le 25 juillet.
Alors justement, cette cérémonie d'ouverture, le 13e va l'accompagner, hein, je crois que ça part tout près d'ici. Il y a beaucoup de pessimisme, c'est quand même assez bizarre. On est un drôle de pays quand même, Eman. On va peut-être être avant-gardiste à travers cette cérémonie. Tout le monde a peur.
Bah, tout le monde a peur. Bon, après, on est dans un contexte assez particulier où on est malheureusement, le monde est malheureusement
fou, quoi.
Par des fous et donc on a des guerres aussi qui se déroulent dans le monde. Donc il y a eu des événements récents qui se sont déroulés, notamment un récemment à Paris qui peut inquiéter les gens et je peux le comprendre. Mais après, j'ai toute confiance quand même au dispositif de sécurité qui sera proposé par la préfecture de police. On travaille d'ailleurs en lien avec eux pour sécuriser tout le parcours de la cérémonie d'ouverture tout le long de la Seine. Un énorme dispositif qui d'ailleurs a été dévoilé par le préfet il y a quelques semaines, avant la fin de l'an dernier. Et aussi pour nos sites de festivités, parce que le 13e aura son site de festivités pendant les Jeux. C'est ça qu'il faut que je dise aussi, c'est qu'on pourra faire la fête et il y aura un lieu JO dans le 13e aussi, même si on n'a pas de compétition. Mais même, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que nous, on aura le luxe, en tout cas, de pouvoir vivre pleinement autrement, mais avec tout un tas d'animations qui seront proposées par nos clubs, par nos éducateurs sportifs, par nos animateurs de la ville de Paris, par des bénévoles et par tout un tas d'artistes aussi, parce que les JO, c'est du sport, mais c'est aussi de la culture. Et donc, il y aura des spectacles, il y aura un coin de restauration, il y aura un écran géant. Ce ne sera pas une fan zone, ce sera un lieu de festivité. Parce que l'idée est de passer un été vraiment agréable avec un air de vacances et sous le signe du sport, bien évidemment.
Alors, l'élu du 13e que tu es, qu'est-ce qui répond aux nombreux sportifs qui disent que finalement, ils n'ont pas leur place dans les Jeux, c'est beaucoup trop cher, on leur rend pas assez hommage. Le sport est pas, les sportifs de tous les jours, les dirigeants ne sont pas assez représentés à travers ces Jeux. C'est un reproche qui est fait souvent.
Je trouve que oui, il y a un manque de reconnaissance. Par exemple, quand quelqu'un gagne une médaille, c'est quand même des mois et des années de préparation. Ne serait-ce que juste participer aux JO, pour être sélectionné, pour être athlète olympique, ça demande des mois et des années de préparation, des championnats à passer. Et c'est un travail de toute une vie. Et donc, il y a le mental, il y a le physique. Et je pense que oui, effectivement, notre pays a intérêt à, par exemple, à donner peut-être une dotation un peu plus importante, un peu plus généreuse pour nos athlètes. Et que bah, notre pays aussi se doit finalement et ce serait, je pense, une manière de reconnaître aussi davantage les acteurs du sport, de peut-être mettre un petit peu plus de sous dans le sport.
Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont, surtout dans les sports olympiques, qui sont livrés à eux-mêmes. Hein. On a encore vu, je crois, un reportage sur le canoë et kayak. Ça paraît assez incroyable, quoi. Ils sont obligés de payer leurs déplacements.
Bah, totalement. Et puis, il y a le pendant et il y a l'après aussi. C'est-à-dire
Bien sûr.
qu'on ne reste pas athlète toute sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Comment on fait? Donc, il y a ce sujet-là aussi encore qui existe, qui est très compliqué et parfois extrêmement compliqué. Et donc, il y a des choses qui se sont développées, mais c'est encore un peu timide. Il faut qu'on ait vraiment des vrais processus, des vrais parcours, des vrais. Quelque chose qui soit imposé et instauré par les institutions, et je pense notamment à l'État, de pouvoir créer quelque chose en faveur des anciens athlètes et des anciens sportifs, quoi. Enfin, un joueur de foot, par exemple, il n'est pas joueur de foot toute sa vie. Donc bon, il y en a, s'ils réussissent bien, ils peuvent faire un peu de médias, ils peuvent être journalistes, ils peuvent être commentateurs, etc. Ou entraîneurs, mais le niveau de vie n'est pas du tout le même. Donc il y a une redescente telle que, bon, après on ne va pas plaindre les joueurs de foot qui gagnent je ne sais combien, ça c'est certain, mais je parle des autres, qui sont par exemple.
Oui, les escrimeurs, les judokas, les voilà.
Exactement. Exactement, ou même ne serait-ce que juste les divisions qui sont en dessous dans le football, enfin, c'est pas du tout la même chose.
Alors, on rappelle, ça partira du pont d'Austerlitz quand même, hein. Donc le 13e, il est représenté quand même dans cette cérémonie.
Mais totalement, ça part de chez nous, on peut en être fier. Et donc, on aura la BNF en premier lieu, hein, la Bibliothèque François Mitterrand, un beau symbole. Et donc, ça continuera jusqu'au pont d'Iéna, jusqu'au Trocadéro. Et donc, voilà, c'est symboliquement, c'est bien que on est vraiment heureux que ça puisse commencer dans le 13e, et que, voilà, on soit finalement en première loge.
Voilà, alors, toutes les festivités, il y aura une communication qui sera faite autour dans les prochains mois.
Oui, dans les prochains mois, déjà, ce que je vous invite à faire, première chose à faire, c'est de vous abonner à la newsletter spéciale JO de la ville de Paris, parce que là-dessus, vous aurez toutes les informations sur comment circuler à Paris, parce que la circulation ne sera pas pareille, hein,
Ça va être un
s'il
problème.
passe en voiture, par exemple, ou ne serait-ce que sur les dispositifs de sécurité. Il y aura des épreuves qui parfois passeront ponctuellement à certains endroits alors que ce ne sont pas des lieux de compétition. Par exemple, le 13e est concerné. Il y a une compétition de cyclisme qui va passer par le 13e et qui passe par la place d'Italie. Donc le trafic sera forcément impacté ce jour-là. Mais au-delà de ça, vous aurez toutes les informations aussi sur les compétitions, sur les sites de festivités. Abonnez-vous bien évidemment à la newsletter de la mairie du 13e, c'est très important parce que bon, au-delà de la communication qu'on fait sur tout ce que l'on fait, toutes les animations que l'on fait, on va vous parler aussi de ce qui se passe particulièrement dans le 13e. Et puis bah, dans quelques mois, paraîtra aussi le magazine de la mairie qui donnera toute la programmation des festivités des Jeux et toute la programmation 13e des Jeux. Et donc, ce sera un peu votre calepin, votre journal de l'été, quoi.
Alors, on va revenir aussi sur donc les grands clubs du 13e. Hein, on l'a dit, beaucoup de sports de haut niveau. Il y a le basket, hein, qui marche super bien actuellement, même si le basket va nous quitter dans quelques mois.
Oui, le basket, le Paris Basketball va rejoindre l'aréna de la Porte de la Chapelle, l'Adidas Arena. Et bon, tant mieux, hein, pour eux, mais bon, nous, voilà, on a une petite larmichette parce que, voilà, pour nous, ça reste quand même un club du 13e qui se développe toujours avec des gens du 13e. Il y a une vraie identité 13e et c'est de là où tout est parti, tout a commencé. Après, il y aura sûrement l'équipe féminine qui va rejoindre la Halle Carpentier. Donc, le Paris Basket ne part pas totalement.
Le siège reste quand même dans le 13e?
Non, le siège ne restera pas dans le 13e, mais l'équipe féminine, l'équipe première féminine, bon, qui n'est pas au même niveau que les mecs, mais on espère en tout cas qu'elles iront au même niveau. On les encourage fortement. Et donc, les féminines vont nous rejoindre. Et puis, bon, on regrette bien évidemment leur dernier match qu'ils ont perdu vraiment à une poignée de points face à Monaco.
C'était hier, hein, faut le dire, hein, sur Bercy.
Exactement. Enfin,
samedi soir.
Samedi soir, exactement. Et donc, bon, on regrette parce que franchement, la fin était très, très, très chaude et on aurait pu gagner. On aurait pu gagner, mais malheureusement, voilà, le temps a été maître. Ouais.
Alors, il y a le volley aussi à Charletti, hein, à Charpie.
Oui, la salle Charpie. Donc, le Paris volley, tout va bien aussi. Hein, ça se développe vraiment bien. On travaille beaucoup avec eux. On a d'excellentes relations. D'ailleurs, ça a changé de management et on en est très content parce que voilà, ça commence à devenir un peu vieillot. Donc là, il y a un nouveau souffle qui va au Paris Volley. Puis ils ont recruté deux joueurs en particulier qui sont vraiment bien, quoi. Hein, dont un qui me semble-t-il, est d'origine chinoise et un grand joueur chinois ou coréen, si je me trompe pas. Et il est, enfin, pour l'avoir vu jouer, c'est assez impressionnant quand même. Donc, allez voir.
Et puis, bon, peut-être que le petit hic, le petit bémol, c'est le Paris Atlético qui est descendu, qui essaie de remonter. Ça va être peut-être possible, même si ça paraît un petit peu compliqué.
Ils ont fait quand même un bon début de saison, le Paris 13 Atlético. En effet, ils sont descendus de division pour cette année. Mais il y a eu des résultats très encourageants dès le début de la saison. Et je pense que ça va continuer. Et en effet, peut-être qu'ils pourraient remonter.
Oui.
Donc bon, voilà. Donc ça veut dire que à nouveau, peut-être il y aura ce sujet de terrain, comme on l'a eu en National 1. Mais on est déjà prêt. On est déjà prêt. On a déjà pensé au sujet. Et donc, il n'y aura pas de grandes difficultés là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette année, nous allons inaugurer le Stade Pelé.
J'allais poser la question.
Eh ben oui. Nous allons inaugurer la dénomination Pelé. Donc, on va rendre hommage au roi Pelé.
Le plus grand joueur de tous les temps, il faut le dire.
Ah, mais totalement, le plus grand joueur de tous les temps. Et ce sera dans le 13e, dans un quartier populaire. On en est fiers. On en est fiers avec le maire du 13e. On en est fiers avec le club et avec le président du club, Frédéric Pereira, qu'on salue. On a pris cette décision tous ensemble parce que ça avait totalement sens. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que début du mois de juin, on est déjà en train de préparer les choses. Une belle inauguration, une belle fête avec une nouvelle entrée sur laquelle on travaille beaucoup, une entrée majestueuse, et je n'exagère même pas sur les mots, une belle fresque aussi qui va rendre hommage à Pelé et au club, évidemment aussi le projet du stade, parce que avec le maire du 13e, nous avons réussi à obtenir un bon budget pour le stade qui nous permettra de faire un véritable stade, un véritable chaudron, comme le dit le président du club, et qui permettra de faire un stade digne du nom de Pelé, mais digne aussi du premier club de France qui est le Paris 13 Atlético.
C'est facile de reprendre le nom de Pelé quand on demande. Il y a des autorisations particulières à obtenir.
Oui, il y a tout un processus juridique qui se fait au sein des services de la ville de Paris. Nous, on a répondu à un appel qu'avait fait le président de la FIFA, Infantino. Nous, on avait dit que c'était une idée intéressante. On s'est dit ça avec le, et c'est le président du club de l'Atlético qui d'ailleurs nous en avait parlé. Et on s'est dit, mais allons-y tout de suite, quoi. Déjà, le parcours de ce joueur incroyable qui gagne 3 Coupes du Monde et qui a été ministre des Sports, qui a lutté d'ailleurs contre les escroqueries envers les joueurs de football, qui a démocratisé davantage le football. Donc bon, des jeunes de mon âge ou plus jeunes que moi encore, peut-être n'ont pas vu d'image, mais ne serait-ce que écouter des extraits de commentateurs de ce qui se passait lorsque Pelé jouait, c'est quand même assez extraordinaire et assez captivant, quoi. En fin de compte, le fait qu'on fasse ça dans un quartier populaire, ça fait vraiment sens, et d'autant plus dans ce quartier-là en particulier, qui mérite aussi d'avoir du beau, d'avoir de l'élégance, qui mérite d'avoir des noms prestigieux aussi. Les noms prestigieux, c'est pas forcément dans le 16e arrondissement ou dans le 7e arrondissement chez Rachida Dati, c'est aussi dans le 13e. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a aussi inauguré le nouveau nom d'une rue. Bon, c'est pas sur le plan sportif, mais sur le plan culturel, on a inauguré la rue David Bowie. On a créé la rue David Bowie, la première dans le monde, et nous, on sera le premier stade de France à porter le nom de Pelé. Donc voilà, et on sait que nous, on a fait l'annonce avant l'Argentine, mais je sais que l'Argentine a inauguré le nom de Pelé tout récemment.
Pourtant, hein, des Argentins qui inaugurent le nom d'un Brésilien. Hein,
C'est vrai, mais il a tellement marqué le monde entier que c'est un joueur brésilien, mais c'est un joueur qui est international et qui touche toutes les nations.
Alors, donc retenez bien aussi la date, c'est début juin, juste avant l'Euro de foot.
Exactement, juste avant l'Euro de foot. Quelques semaines après, on aura du coup le centenaire de la piscine de la Butte aux Cailles. Donc un grand moment aussi. Faut dire aussi que c'est la plus vieille piscine de Paris. C'est la plus ancienne, créée en 1924 du coup, et qui par un artiste contemporain, et qui a pour celles et ceux, et je pense qu'ils sont nombreux parmi les auditeurs, mais qui sont allés, mais c'est une piscine vraiment magnifique, quoi. Et donc là, on est en train de la rénover actuellement pendant un bon mois. Donc elle est actuellement fermée, malheureusement. Donc on est en train de rénover les vestiaires, etc. On a un projet aussi avec le maire là-dessus, pas pour tout de suite, hein, mais dans les prochaines années qui viennent, d'étendre aussi le solarium de la piscine, parce qu'on sait que pendant l'été, cette piscine, elle est surbondée, et les gens la demandent énormément, forcément avec les chaleurs que l'on connaît aujourd'hui pendant l'été. Mais voilà, on va pouvoir pousser les murs de la piscine et créer un nouvel espace. Voilà, donc pour cette inauguration, pour ce centenaire, on proposera différentes animations pour tout le monde. Il y aura des cours d'aquagym, il y aura une séance de ciné à la piscine aussi. Donc voilà.
En tout cas, quel été on a d'y être. Imaginez le 14 juillet, jour de fête nationale, la flamme olympique qui rentre donc dans Paris, et l'équipe de France qui devient champion d'Europe et qu'on va fêter dans Paris le soir même. Imaginez la journée.
Ce serait incroyable. On en rêve, mais oui, rien n'est impossible, hein, mais il faut y croire.
Alors justement, le sport, ça sert aussi un petit peu d'optimisme, hein. Ça enlève un petit peu la grisaille et l'amorosité que certains ont chaque jour.
Oui, totalement. Ça... Mais ne serait-ce que juste le regarder aussi, et pas forcément le pratiquer, hein, mais juste le regarder, ça nous permet de nous changer les idées, ça fait du lien entre les gens. C'est un sujet qui... Le sport, ça rassemble les gens. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que ça rassemble les gens. Et même qu'on aime ou pas le sport... Le fait que d'être avec d'autres personnes et qu'il y ait une effervescence pendant un moment. D'ailleurs, les seuls moments qu'on retient de vivre ensemble, vraiment marquants, c'est quand il y a des victoires, par exemple, de Coupe du Monde, où on se souvient encore de la dernière Coupe du Monde, la deuxième étoile gagnée par l'équipe de France. Je pense que tout le monde se souvient où il était, avec qui il était, et la joie que c'était pendant et après, quoi.
Bon, Eman, en tout cas, merci pour ce bilan 2023. Beaucoup de travail dans les prochains mois. Nous sommes en 2024. C'est un peu plus de la moitié de la mandature. Comment tu es ? Il y a beaucoup de choses à faire. Comment tu es ? Plein d'enthousiasme ?
Plein d'enthousiasme, plein d'énergie, beaucoup de boulot, bien évidemment, parce qu'on n'en a jamais assez.
Mais quelle époque, quand même.
Oui.
Dans Paris, on a tout, le mondial de rugby, les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques. C'est bien pour une mandature d'accompagner tout cela.
Ah ben totalement, c'est un vrai plaisir. Je prends vraiment mon pied, c'est un vrai kiff. Mais ce que je me dis surtout, c'est comment je vais faire kiffer les gens surtout. C'est ça le plus important. Et donc on essaye de trouver le plus d'idées, d'initiatives possibles pour partager ça avec tout le monde et de faire vivre le sport auprès de toutes et tous. Peu importe leurs moyens, c'est démocratiser le sport, c'est rendre le sport gratuit, selon moi. Et le rendre le plus accessible possible. C'est vraiment cette vision qu'on a avec la maire de Paris, son adjoint et le maire du 13e. On a les JO, donc ça va être vraiment quelque chose. Et je le dis d'ailleurs aussi pour celles et ceux qui pensent peut-être partir pendant les Jeux Olympiques et qui se disent, bon, voilà, les transports vont être blindés, etc. Ben oui, mais tout comme tout événement sportif
C'est
international,
une fois dans une vie.
c'est une fois dans une vie, c'est à vivre, c'est à faire. Et puis, je pense que on a pas vraiment trop de raisons de s'inquiéter. Ça va bien se passer, il faut y croire. Et si chacun et chacune est dans cette pensée positive-là, ça ne peut que très bien se passer.
Très bien, Eman, merci. Puis je vous laisse avec Orelsan cette fois-ci, j'ai bien dit Orelsan.
Mais oui, Orelsan, oui.
Allez, merci en tout cas.
Merci à toi.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit prêt, toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf on fume des clopes. 14 ans je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre, pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme, quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne, sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Voilà, la quête, c'était Aurel San. Alors, pour être complet sur les bilans qu'on a fait de l'année 2023, eh bien, je voulais quand même rajouter les lauréats de cette fin de saison, hein, de cette fin d'année. Alors, on avait parlé du Ballon d'Or. On sait que c'est Lionel Messi hein, qui, au niveau du foot, a obtenu son 8e Ballon d'Or devant Haaland et Mbappé. Mais sur un plan plus général, eh bien, on l'avait un petit peu laissé entendre dans l'émission de rétro d'il y a un mois. Bah, c'est Novak Djokovic, celui qui a tout gagné, sauf Wimbledon, qui a été élu champion des champions mondes, 876 points devant le français Léon Marchand, très loin, 361 points. Et le troisième, c'est le champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, avec 348 points. Chez les femmes, la championne des champions du monde, eh bien, c'est l'américaine Simone Biles, celle qui a remporté 4 titres de championne du monde cette année en gymnastique, portant ainsi à 23 titres donc au total dans sa carrière de championne du monde, avec 812 points. Elle s'impose devant Michaela Schifrin, 709 points. Et la troisième, donc la nageuse américaine Cathy Ledecky, 446 points. Côté français, bon, là, c'est pas une surprise, on vous l'avait laissé entendre, hein, pour ses 3 médailles d'or et son record du monde, c'est Léon Marchand, qui a été élu champion des champions France, 1160 points, très loin devant Teddy Riner, le judoka français, donc avec 456 points. Et le troisième, c'est le skieur Alexis Pinturo, 260 points. Chez les femmes, là, il y avait match entre Pauline Ferrand-Prévot et Clarisse Agbenenou. Et c'est une troisième qui s'est imposée, celle qui a remporté le premier grand tournoi majeur en golf, Céline Boutier, avec 800 points. Elle gagne devant Pauline Ferrand-Prévot, 576 points. La troisième, donc, c'est Clarisse Agbenenou, 550 points. Et enfin, en paralympique, eh bien, on a couronné cette année Alexandre Lyoté pour le paracyclisme français et Eddie Gauguin chez les femmes pour la paracyclisme féminine française. Voilà donc pour les lauréats de cette fin d'année 2023. Alors, il y a l'année 2023 qui s'est achevée, il y a l'année 2024 qui commence en beauté. Alors, on en reparlera tout à l'heure avec Vanessa concernant le patinage, mais auparavant, il y a une riche actu sportive ce week-end, ma chère Laura.
Oui, c'est ça. Et puis, on va commencer du coup par le ski alpin. Oui. Tu parlais de Alexis Pinturo. Oui. On va commencer
avec Sarrazin.
Oui, c'est ça, le Français qui enchaîne les victoires et qui actuellement a 4 podiums en vitesse depuis le début de la Coupe du Monde de ski alpin, avec notamment une victoire à Bormio le 28 décembre, pour celui qui s'est inscrit comme le 11e Français lauréat en descente en Coupe du Monde. Et puis une victoire en Super G à Wengen en Suisse vendredi. Il devance le Suisse Marco Odermatt et le Norvégien Alexander Amodkild. Il offre à la France sa première victoire en Super G en Coupe du Monde depuis 10 ans, avec le succès d'Alexis Pinturo le 13 mars 2014 en Suisse. Alexis Pinturo qui a été victime d'une lourde chute et a dû être évacué par hélicoptère lors de cette descente. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une rupture des ligaments croisés, donc selon les dernières informations.
Ouais, saison terminée pour lui. Hein.
Oui, c'est ça, saison terminée pour lui. Et puis Dakar 2024, le Suédois Mathias Ekström, Team Audi Sport, remporte aujourd'hui la 8e étape du Dakar 2024. Il a devancé les Français Stéphane Peter Hansel et Gerlin Chicherit, qui occupe actuellement la 7e place du classement général provisoire. Carlos Sainz est en première position, juste devant le Français Sébastien Loeb. Le motard Karl Falcon, 45 ans, on a appris qu'il était décédé des suites d'une chute survenue lors de la seconde épreuve qui s'était déroulée le 7 janvier.
Alors, on va rappeler qu'on est à mi-parcours, on est à mi-course hein, du
oui,
Dakar.
Oui, c'est ça. Côté tennis, le tennisman français Hugo Grenier remporte aujourd'hui son premier tour de l'Open d'Australie, Grand Chelem, face à son compatriote Alexandre Muller, une victoire qui a été sauvée, 2 balles de match qui ont été sauvées, pardon, et le français remporte ce duel après 4h30 de jeu. Parmi les 24 français qui sont participants, 4 ont déjà rejoint le tableau principal du Grand Chelem. Tableau féminin, Fiona Ferro et Léolia Jean-Jean. Et pour le tableau masculin, Terence Atman et Hugo Grenier, dont on parlait justement.
Voilà, alors on espère, Laura, qu'au moins les Françaises et les Français passeront cette fatidique deuxième semaine. Hein, parce qu'en tennis, c'est devenu malheureusement une mauvaise habitude de ne pas passer la deuxième semaine.
Ouais.
Et puis on parlait de Djokovic, bah, il va essayer en tout cas de porter encore plus loin son record de recordman des
victoires
en Grand Chelem.
On verra ça, on suivra ça de très près. Championnat d'Europe de handball masculin. Après avoir battu la Macédoine du Nord 39-29, la France a peiné hier à remporter son match contre la Suisse.
Match nul.
Match nul, 26-26. Pour la troisième journée, l'équipe de France affrontera l'Allemagne demain à 20h30. Et puis, douzième journée, je vais donner du coup comme à notre habitude les résultats des clubs franciliens.
Bien sûr.
Douzième journée de la Ligue Butagaz Énergie, championnat de handball féminin. Le Racing 92 remporte mercredi dernier son match contre l'équipe de Plan de Cuq, 31-25. L'équipe francilienne se situe actuellement à la quatrième place, derrière Nantes, Brest et Metz. Pour son prochain match, elle fera face à Mérignac, mercredi à 20h30. Côté basket, 19e journée du Betclic Basket, Nanterre et Boulogne-Levallois remportent leur match face à Strasbourg et Saint-Quentin. Paris offre la victoire à Monaco 85-92 niveau classement. Paris-Nanterre sont à la 4e et à la 5e place respectivement, tandis que Boulogne-Levallois occupe toujours la 18e et dernière place du classement. Volleyball, 17e journée du Marmara Spike League, le Plessis-Robinson remporte son match 3-1 face à Narbonne. Paris échoue 1-3 face à Poitiers. Niveau classement, les deux équipes franciliennes se situent respectivement à la 9e place pour le Plessis-Robinson et à la 11e position pour Paris.
Voilà, ouais, effectivement, le basket et le volley, hein, on en parlait avec Eman, donc ce sont deux clubs du 13e. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien pour le basket actuellement, malgré sa défaite à Monaco. Voilà, c'est bon, c'est tout ?
Oui.
Ouais, très bien. Allez, non, c'est pas tout. Il y a une bonne nouvelle. C'est donc un deuxième titre de champion d'Europe pour Adam Siaoimfa, c'est ça ?
Tout à fait.
Vanessa, l'année sportive commence bien en patinage.
Oui, tout à fait. Alors, c'était une grande satisfaction de le voir gagner une nouvelle fois. Donc, c'est un doublé puisqu'il a gagné le titre aussi l'année dernière. Il s'impose largement devant un Estonien qui a été une surprise, qui s'appelle Alexander Selefko, et devant un Italien habitué des podiums européens qui s'appelle Matteo Rizzo. Quand on regarde un peu plus la performance, il est le seul à tenter 4 quadruples sauts. C'était plutôt bien. Alors, c'était pas parfait, mais il a largement remporté. C'était bien au-dessus des autres. Il y a eu une chute sur le deuxième quad, mais dans l'ensemble, le reste, ça se tenait bien.
Il s'est tellement facilement imposé qu'il a fait le salto arrière, qui est interdit.
Tout à fait. Alors, en effet, dans le programme, il a fait un backflip dans son programme, alors que d'habitude, des fois, il le faisait à la sortie après avoir terminé son programme. Il faut rappeler que c'est un élément qui est interdit parce qu'il est dangereux. Voilà, si on se projette sur l'ensemble de la saison, il a eu une première partie de saison très chargée. Donc c'est vrai qu'il est arrivé sur ces championnats d'Europe quand même un petit peu fatigué, ce qui explique un petit peu les quelques erreurs qu'il a faites. Mais c'est quand même, si on fait le bilan global jusqu'ici, c'est quand même une très bonne saison. Il a déjà gagné deux grands prix, il a terminé quatrième de la finale et il a remporté les championnats de France. Et tout ça dans un timing assez serré entre la finale du Grand Prix, ensuite tout de suite les championnats de France la semaine d'après. Et il n'y a eu que deux semaines par rapport à entre la finale du Grand Prix et les championnats d'Europe, alors que d'habitude les championnats d'Europe se déroulent plutôt fin janvier. Mais il n'y a pas que cette belle surprise, il n'y a pas que ce beau résultat pour les Français.
Ouais. Alors je voulais juste poser une question pour Adam Siaoimfa. Est-ce qu'il peut être champion du monde à Montréal à la fin du mois de mars?
Alors, est-ce qu'il peut être champion du monde à Montréal?
Je sais que tu vas y aller, donc voilà.
J'aimerais bien. En tous les cas, ça va être compliqué parce que autant sur le plan européen, il est bien au-dessus des autres. Et autant sur le plan mondial, ça va être très, très, très serré avec les Japonais, Uno, Kageyama ou peut-être Miura. Et Yamalini qui réalise le quadruple Axel aussi. Si on prend la performance de la semaine dernière, de vendredi soir, à proprement parler, techniquement, s'il fait la même performance, il sera loin, il sera même pas dans le top 5. Donc je pense qu'il a besoin d'un peu de repos et puis de retravailler les petites choses, de re-régler les choses pour viser un top 5. Moi, je trouve que ce serait bien un top 5 sur les mondiaux à Montréal. Mm-hmm. Donc, à voir ce qui va se passer. Voilà, il faut garder la confiance. Il faut retravailler sur certaines choses. Je voulais aussi parler des autres Français qui ont quand même brillé, même s'ils n'ont pas remporté de médaille dans ce championnat d'Europe. La danse sur glace, en particulier, a vraiment brillé, puisque on retrouve deux Français dans le top 5. Donc, à la 4e et 5e place, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, 4e, et puis
la plus mauvaise place.
Bah là, pas forcément, parce que vraiment, ils ont fait l'un des plus beaux programmes de leur vie. Et puis, cinquième, les Villardiens, Lucia de Mougeot et Théo Lemercier, qui font le meilleur classement aussi et qui obtiennent leur meilleur record de la saison. Mmh. Donc ça, c'est vraiment à saluer. L'autre chose qui a salué aussi, côté français, c'est la 5e place de Laurine Schild. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon classement comme ça. Elle a vraiment fait un beau programme libre, une bonne compétition. C'est la Belge Luna Hendricks qui remporte cette compétition chez les femmes. Et la Belgique s'est vraiment fait une place de choix dans ces championnats d'Europe, puisqu'on a deux Belges sur le podium, à la première et troisième place. Là, en argent, c'est Anastasia Gubanova, championne d'Europe la saison dernière, qui termine en argent cette fois. Voilà, c'est si on regarde un petit peu le tableau des médailles.
Oui, alors on va rappeler quand même qu'il y a deux couples italiens qui sont donc récompensés. C'est Guinard Fabry, donc en danse mixte, et en couple mixte, c'est Beccari Garizé, c'est ça.
J'allais y venir. Si on regarde le tableau des médailles, justement, l'Italie est en pole position comme l'année dernière. Donc justement, en danse sur glace, c'est les Italiens Guinard Fabry qui remportent la compétition. Et en couple aussi, on a en couple artistique, on a c'est la victoire des Italiens Beccari Guarizé. Et il y a aussi un autre couple italien qui est troisième, Gilardi Ambrosini. Donc ça place vraiment l'Italie en tête de ce championnat d'Europe. Également, quand on regarde un petit peu sur la catégorie danse sur glace, c'est aussi un bon résultat. Mmh. Et puis, troisième, les Lituaniens à domicile en danse sur glace, puisque ça se déroulait à Kaunas en Lituanie.
Alors, pour en finir sur le chapitre du patinage, pourquoi l'école italienne comme ça aussi bonne ?
Bah, l'école italienne, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont développé depuis plusieurs années plusieurs catégories. Ils étaient déjà bons en danse sur glace déjà depuis un moment. Et puis, ils ont développé les messieurs. Et chez les femmes, ça commence à venir. L'italienne était sixième. Et surtout chez les couples, c'est ça qui a poussé le plus. Et en l'absence des Russes, donc, on voit s'imposer deux couples italiens. Et le couple italien qui était champion d'Europe l'année dernière, là, termine beaucoup plus loin. Mais vraiment, bah, évidemment, la ligne de mire, c'est Cortina d'Ampezzo, donc il prépare ça, bien évidemment. Mm-hmm. Voilà.
Très bien. Ben, merci Vanessa pour ce point très complet qui est venu s'ajouter au journal des sports très complet de Laura. Est-ce qu'il y a des aussi bonnes nouvelles pour 2024, Benoît, en MMA ?
Bah écoute, déjà tout d'abord bonne année à tous, encore une fois, merci, je suis toujours ravi d'être là avec vous.
Tu fais partie de la maison, émission Omnisport, on parle de tout, on enchaîne d'un sport à l'autre.
Exactement, et ben du coup, pour cette nouvelle année, déjà meilleurs voeux à tout le monde, j'aimerais quand même, du coup Philippe, revenir quand même sur cette année 2023 qui a quand même été incroyable.
On a fait aussi un peu de bilan,
MMA. Et on n'a pas eu le temps de faire le bilan juste avant. Et là, j'aimerais le faire maintenant quand même.
On complète le bilan de décembre.
Ben ouais, carrément. Ouais. Et franchement, cette année, elle a été très riche, très très riche. Et à la fois sur le plan sportif, parce qu'on a eu des beaux combats, mais également au niveau de l'impact et de la popularité du MMA en France. Et pour commencer, je voudrais qu'on puisse revenir du coup sur l'un des événements qui nous a un peu tous marqués. Ça a été le mars dernier, ça a été le retour du GOAT de John Jones face à Cyril Gane, où clairement on a eu un combat très très rapide, puisque John Jones en 2 minutes a vaincu notre cher champion Cyril Gane. Mais on lui en veut pas parce que c'est John Jones. Finalement, perdre contre John Jones, qu'est-ce que ça vaut au final? Pas grand chose. Mais ça a été quand même l'un des grands retours de cette année 2023. On a également pour nous la France, encore une fois, la montée en puissance de Benoît Saint-Denis, qui s'est, durant cette année 2023, enchaîné une série de 3 victoires, dont la dernière avec un magnifique KO high kick face à l'Américain Frévola. Donc on va dire clairement que ça c'est une très bonne chose pour lui. Et d'ailleurs, il y a des belles nouvelles qui arrivent bientôt, mais je vais y venir après sur Benoît Saint-Denis tranquillement. Comment parler du MMA français sans parler de notre Kylian Mbappé du MMA, Salahedin Parnasse, qui, durant cette année 2023, a été double champion du KSW. Il a failli être triple champion, malheureusement, en début de janvier, mais ça n'a pas pu se faire. Mais en tout cas, on est fiers de lui, parce que clairement, c'est l'avenir du MMA français. Et en plus, déjà double champion à son jeune âge, c'est clairement incroyable. On peut continuer, bien évidemment, sur cette lancée avec l'arrivée du coup de Cédric Doumbé dans le MMA. Il a une signature qui a été un peu hésitante. On savait pas s'il allait signer à l'UFC, au PFL ou au Bellator, et à la finale il s'est décidé de choisir le PFL. Moi au début j'étais un peu sceptique sur cette signature, mais en réalité je pense que c'est un très très bon choix de sa part. Parce qu'on va pas se mentir, il arrive à faire une telle communication autour de lui, Cédric Doumbé. Donc au final, même s'il n'est pas à l'UFC, c'est comme s'il y était d'une certaine manière. Et ça n'a pas manqué, puisqu'en septembre, il a affronté Jordan Zebo avec un combat qui, clairement, j'ai envie de dire, est quasiment emblématique, puisque c'était l'une de ses premières, un premier, entre guillemets, gros combat. Bon, pour certains, ce n'était pas un gros combat, mais pour moi, j'estime que c'est quand même un gros combat au niveau de toute l'aura qu'il y a eu autour de lui, et surtout que ça a eu lieu à Paris. C'est à Paris, et ça a été une victoire expéditive, combat qui n'a même pas duré une seconde, où Cédric Doumbé, tout simplement, s'est imposé par KO, et on se souviendra tous de ce combat. Il y avait tous les joueurs du PSG qui étaient là.
C'est dommage, Gizo.
Voilà.
Ça n'a pas duré longtemps,
mais franchement, ouais. Les gens ont été satisfaits, je pense, de la performance de Cédric Doumbé. Donc pour moi, c'est même l'un des éléments qu'on se rappellera de cette année 2023 en France pour le MMA. Et comment ne pas finir sans parler, bien évidemment, de l'homme qui tape les gens pour vivre. Il s'agit de Francis Ngannou,
qui
effectivement a quitté le MMA pour aller vers la boxe, et qui clairement a enchaîné un combat face au champion poids lourd Tyson Fury. Il a perdu, mais en réalité, est-ce qu'il n'a pas vraiment gagné? Parce qu'il a tellement dominé le combat, et que je pense qu'unanimement tout le monde aurait...
C'est vrai qu'il y a un peu de suspicion.
Il y a un peu de suspicion, mais bon.
C'est probablement pour qu'il y ait une revanche. Voilà.
Et moi, j'espère qu'il y aura une revanche, parce que d'ailleurs, il y a un prochain combat qui est annoncé face à Anthony Joshua.
Bah oui.
Et en cas de victoire, clairement, il y aura revanche face à Tyson. Et j'espère qu'il y aura victoire sur ce coup-là. Donc franchement, cette année, on va dire, au niveau du MMA français, elle a été riche. J'ai également mes petits combats à l'international que j'ai aimé, que j'ai quand même voulu rappeler. Pour moi, l'un des combats que j'ai apprécié particulièrement, c'est le combat de Israël Adesanya face à Alex Pereira, qui pour moi a été l'une des meilleures revanches chez les lourds légers, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, Israël Adesanya, on va dire qu'il était poursuivi par Alex Pereira, parce qu'il faut savoir, c'est que Israël Adesanya, avant d'être dans le MMA, était dans le kickboxing. À ce moment-là également, Alex Pereira l'était. Il l'avait vaincu à 2 reprises. Adesanya a effectué sa transition en MMA, et clairement, il avait marqué son sport, marqué la discipline, parce que c'était clairement lui la figure emblématique du MMA à ce moment-là. Alex Pereira le rejoint, finit par le vaincre à nouveau. Donc ça fait 3 défaites d'Adesanya face à Pereira. Ils organisent une revanche, et là, dans cette revanche, Adesanya réussit enfin par gagner. Donc ça a été, moi, j'ai beaucoup aimé ce retour d'Adesanya. Et en plus, il récupère à ce moment-là sa ceinture. Donc, il se trouve que c'était un très bon combat, une très belle victoire. Enfin, un autre combat qui m'a marqué pour cette année 2023, c'est Justin Gaethje contre Dustin Poirier. qui du coup c'est à une victoire du coup de Justin Gaethje, qui est un combattant que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il est très intéressant et très il a un style de combat que j'apprécie, et je trouve qu'il met des coups assez puissants. C'est une des caractéristiques que j'apprécie chez lui. Et pourquoi je parle de ce combat? Parce qu'il faut savoir que notre cher Benoît Saint-Denis affrontera Justin Poirier. Donc c'est quand même une personne qui est très bien classée, qui est dans le top 10. Et là, du coup, on va avoir un Français qui va affronter quand même une des légendes du MMA actuellement. Et ça risque d'être une grande opportunité pour Benoît Saint-Denis pour avoir le titre juste après, s'il arrive à le vaincre. Donc, je pense que on va avoir... Là, on a quand même de grandes nouvelles qui s'annoncent au niveau du MMA français.
Donc, on a une belle année 2023 et on va avoir une année 2024 fabuleuse.
Moi, je pense qu'elle sera totalement mieux. Ouais. Je pense qu'elle sera énorme, et on a encore beaucoup de choses à venir pour cette année 2024. Et je conclurai également avec du coup l'annonce du combat de Fares Yam qui va justement défendre la France face à Claudio Puelles, qui est un Pérouvien. Et on a également enfin Morgan Charrière, lui, qui va affronter en avril, du coup, un Coréen. Donc, on a encore une fois plusieurs Français qui combattent à l'international et qui, clairement, sont en train de marquer l'empreinte française dans le MMA. Et petite nouvelle aussi qu'il ne fallait pas laisser passer, c'est qu'on a le grand champion de Muay Thai, Youssef Bouganem, belge pour le coup, qui va faire également effectuer une transition au MMA.
D'accord, Bart, tu viendras nous parler de tous ces différents combats
exactement.
Tout au long de ces prochains mois.
Hein. Clairement.
Merci Benoît, en tout cas, pour cette belle rétro 2023 et puis aussi ces perspectives de l'année 2024. Allez, la deuxième pause musicale avec Led Zeppelin, Wall Lotta Love, et ensuite on enchaîne sur le foot avec Stéphane Desenclos.
Down inside, honey, you need it. I'm gonna
Voilà, allez, on va finir cette, donc, cette émission par la traditionnelle pachoute. Hein. Alors, vous n'oubliez pas, à partir de 20h30, l'ami Malik, hein, qui est actuellement donc, retenu par les matchs de la CAN, eh bien, il prendra le relais pour son émission au bout du foot. En attendant, je retrouve mon ami Stéphane Dezenclos. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe.
Ça va, pleine forme?
Ouais, bonsoir à toutes et à tous sur le plateau. Ouais, pleine forme. Oui. Pleine forme. Et toi, les vacances, ça a été? Tu rentres de vacances?
Très bien, très bien. Au beau soleil de la Guadeloupe.
En Guadeloupe, voilà. Bah, attention au choc thermique, ouais. Hein.
Oui, oui, effectivement. Bon, Stéphane, ça n'a pas empêché de suivre l'actu foot. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau des résultats, je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour deux grands noms du foot qui nous ont quittés, Mario Zagallo et puis Franz Beckenbauer. Ils avaient la particularité non seulement d'avoir gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, peut-être que Franz Beckenbauer a un peu plus marqué son histoire comme joueur, mais... oui. Tous les deux sont des grands monsieur de grands monsieur du foot et Zagallo non pas certainement aussi avec le Brésil et puis Franz Beckenbauer. On se répète hein, quand on dit que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, mais bon, voilà.
Oui, c'est vrai que ça en fait quand même quelques-uns. Hein, ouais, tous ceux qui nous ont fait rêver dans notre jeunesse, ça commence à, ouais, hein, commence voilà. À y en avoir de moins en moins.
Ouais,
voilà.
Tout à fait.
Alors Stéphane, donc une 18e journée du championnat qui a permis donc au Paris Saint-Germain de définitivement creuser l'écart hein, après donc l'intermède Coupe de France de la semaine dernière où à l'exception de Sochaux qui avait battu Lorient, il n'y avait pas eu d'énormes surprises. Bon bah voilà, le PSG 8 points d'avance maintenant après notamment les défaites de Monaco et de Nice.
Tout à fait, gros coup de massue, gros coup de force du Paris Saint-Germain qui pour moi a carrément plié la Ligue 1. Bon, il y avait une guerre de doute parce que il y a les performances de l'équipe qui sont déjà, alors après on peut toujours débattre sur la façon de jouer, sur plein de choses, oui. En tout cas qui sont déjà assez impressionnantes quand même hein. Une seule défaite en 18 matchs de Ligue 1, mais il y a aussi après le comportement des adversaires quoi. Il y a Nice s'effrite un petit peu, Monaco continue à être très très irrégulier, et puis derrière il y a des gros cadors comme qui sont normalement en début de saison, on pense qu'ils vont un peu titiller le PSG, comme l'OM, Lyon, qui sont carrément hors circuit pour un possible titre, et puis même d'autres encore comme des habitués, notamment l'année dernière, le Dauphin l'année dernière, Lens, qui paraît quand même un peu complètement dépassé. Alors il reste peut-être Lille, mais Lille c'est fragile aussi. Donc tout ça fait que effectivement, pour moi, le championnat il est plié quoi, parce que Paris avance vite, quoi, vite bien, et puis derrière il n'y a personne qui suit quoi.
Oui, alors on va rappeler une victoire du PSG hier à Lens 2-0, une journée qui avait commencé par le nul de Marseille, donc accroché à domicile par Strasbourg 1-0. On en parlait, la grosse déception, c'est Monaco battu à domicile par 1-3-1. Victoire de Rennes hein, qui bat Nice 2-0, Nice qui va, je pense, commencer à marquer le pas. Lille qui a battu Lorient 3-0. La bonne confirmation, c'est Brest qui bat Montpellier 2-0. Hein. Et puis... on n'oubliera pas aussi Clermont qui va gagner dans un match important pour le maintien à Nantes 2-1. Et puis le Havre qui enfonce encore un peu plus Lyon en s'imposant 3-1.
Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, peut-être on a été... ou alors Brest, effectivement. Bon, c'est vrai que Brest, on va pas se mentir. Tout le monde se dit que Brest ne tiendra pas cette cadence. Mais il y a quand même des sacrés joueurs dans cette équipe. Et je pense qu'il y a certaines révélations. Notamment, je pense à, bon, on parle beaucoup de Pierre Lesmiloul, mais il y a aussi Del Castillo, je pense qu'il y a un joueur extraordinaire qui est vraiment sous-coté, tellement sous-coté qu'on nous a, entre guillemets, j'ai jamais été dans ce mouvement-là, on a beaucoup parlé, on nous a un peu bassiné avec des Savaniers qui méritent l'équipe de France et ceci et cela. Bon, il y en a un depuis le début de la saison qui m'épate vraiment et qui mériterait peut-être aussi que Didier Deschamps le regarde un peu plus près, c'est Romain Del Castillo, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, quoi. Donc effectivement, là-dessus, bon, on va vite avoir un peu un aperçu de ce que ça peut donner lors des deux prochaines journées, hein, puisqu'on a Paris Saint-Germain, Paris-Brest, et puis après on a Brest-Nice. Donc sur ces deux matchs-là, on va voir un petit peu ce que va donner. Même s'ils marquent pas de points, même s'ils sont cinquième après ces matchs ou sixième, ça restera toujours quand même exceptionnel ce que fait Brest, quoi. Mais on va voir s'ils ont moyen de peut-être essayer de rester
un top 5, au moins. Au moins un top 5, quoi. Voilà. C'est ça. Donc PSG, donc on l'a dit, en tête 43 points, deuxième Nice 35, troisième Brest 34, quatrième Monaco 33, cinquième Lille 31. On voit que pour les places d'honneur, c'est très très serré. Il n'y a que 4 points d'écart entre le deuxième et puis le cinquième.
Voilà, tout à fait. Et puis après, il faudra regarder, je n'ai pas le classement sous les yeux, mais entre même le je vais dire le cinquième et le dixième, quoi, entre le cinquième et le dixième, il ne doit pas y avoir beaucoup.
Non, alors on a Marseille qui est 7e avec 28 points, ouais, et ensuite en bas, ensuite on a Nantes, Montpellier est donc avec 18 points, Toulouse est 14e avec 17 points, 15e Metz et Lyon 16 points, 17e Clermont 14 points et 18e et dernière, donc Lanterne Rouge pour l'instant, c'est Lorient 12 points. Mais là aussi, tout est possible en bas du classement.
Tout est possible, et puis comme on sait peut-être. Pas pour ma part, mais certains se sont peut-être emballés un petit peu vite pour l'Olympique Lyonnais, et notamment à commencer par Jeune Textor qui moi, vous savez que j'avais soutenu la thèse que quoi qu'il arrive il allait changer beaucoup de joueurs, et puis je voyais vraiment pas Pierre Sage continuer à la tête de l'OL. L'esprit, l'ambiance générale a fait qu'il a été confirmé jusqu'au mois de juin. Attendons de voir si c'était vraiment une bonne chose, parce qu'on dit que les clubs comme Lorient, Clermont, même Toulouse ou d'autres, peut-être Strasbourg aussi, mais qui est actuellement plus haut, ont eu l'habitude de lutter pour se maintenir, ce qui n'est pas le cas de Lyon. Est-ce que là, Lyon ne s'est pas vu on est sorti de la zone rouge, on a fait le plus compliqué, maintenant on regarde, alors les joueurs ne l'ont pas forcément dit, mais les supporters, l'entourage, les observateurs, beaucoup commençaient à dire ils visent la première partie de tableau, on pensait quasiment plus au maintien, quoi. Puis tout d'un coup, derrière, il y a la douche froide avec le Havre, parce qu'il y a deux cartons rouges pris au Havre, ça les va diminuer encore pour le prochain match, donc ils sont loin d'être sortis d'affaire. On a peut-être été un peu vite pour les voir, et eux, les premiers, ils se sont vus peut-être un peu trop beaux.
Oui, en tout cas, c'est un championnat qui va maintenant, de par son intérêt, donc simplement intéressant pour les places d'honneur et puis les maintiens, comme très souvent depuis quelques saisons.
Exactement. Et entre effectivement, qui va terminer deuxième, il y a peu de points, puis il y a des équipes pas habituées à y être, qui va terminer 18e ou 17e ou 16e, ça va être pareil. Puis on va certainement avoir, on va parler un peu après, je pense que tu vas parler un peu de la Ligue 2, on va certainement avoir très beaux barrages, de toute façon, intéressants dans tous les sens, donc c'est plutôt pas mal, quoi.
Alors, pour en finir sur le chapitre de la Ligue 1, il y aura un autre tour de Coupe de France la semaine prochaine. La Ligue 1, ça repartira dans 15 jours. Simplement dire qu'Mbappé, il est meilleur buteur avec 19 buts, c'est-à-dire que c'est pratiquement un but par match.
Ouais, c'est plus qu'un but par match, même peut-être plus. Je sais pas combien.
Un but de moyenne.
Là, il y a eu 18 matchs de Ligue 1, il a dû rater le premier, donc.
Je crois qu'il a joué 17 matchs sur 18.
Ouais. 17 matchs, dont 17 matchs sur 18, donc c'est 19 matchs, 19 buts en 17 matchs, et puis dernièrement, il était interrogé sur le record de buts, d'atteindre les 200 buts cette saison, en tout, en carrière, en championnat, et lui-même disait, il est à 183, je crois qu'il doit être à 183 ou 184 buts, et il disait, faut que je marque plus d'un but par match, mais il disait lui-même, c'est comme ça que je suis depuis le début de la saison, donc ça peut le faire, c'est assez impressionnant quand même.
Alors la Ligue 2 justement, Stéphane, on en parlait, 20e journée, il y a un match ô combien capital ce soir entre Auxerre et Bordeaux à 20h45, parce qu'Angers a été battu à Bastia 2-0, Laval qui continue à baisser, est allé faire nul à Saint-Etienne 0-0, semi-échec aussi pour Grenoble face à domicile à Dunkerque 2-2, une victoire qui te fera plaisir, c'est celle de Rodez, devant Pau 2-1.
Très belle équipe de Pau, très en face.
Ouais, mais cinquième.
Ils ont, c'est un peu chanceux quand même. Faut le reconnaître. Oui. Moi, bien sûr, j'ai vu le match et Pau est une très belle équipe. Je pense que Pau a été un peu trop. On parlait de Lyon tout à l'heure pour le maintien, qui fait une première partie de saison exceptionnelle quand même. Pau, faut bien le reconnaître, qui restait, qui était allé à Rodez avec je sais pas combien de points de matchs de suite sans perdre. C'était peut-être 8 ou 9, quoi, quelque chose comme ça. Et ils se sont peut-être un peu aussi emballés, se sont un peu laissés aller, quoi. Et c'est vrai qu'ils étaient bons, je pense qu'ils ont été, en tout cas sur la deuxième période, ils ont été meilleurs que Rodez, mais ils se font avoir dans les arrêts de jeu, en prenant un but. Une très très belle équipe. Et si je me permets, si je parle un peu de Pau aujourd'hui, c'est que j'ai regardé un petit peu quand même ce championnat de Ligue 2. Tout à l'heure on parlait de la Ligue 1, bon, on peut dire pareil pour certains clubs de Ligue 1, c'est que vous avez Grenoble, donc, qui est troisième, je crois.
Oui, alors...
Vous avez... alors, pour vous dire, pour les auditeurs qui comprennent bien, Grenoble troisième, c'est un budget annuel de 9 millions d'euros. Pau, cinquième, c'est un budget annuel de 8 millions d'euros. Rodez, sixième, c'est un budget, ou septième, Rodez, peut-être, c'est un budget annuel de 8 millions d'euros. Bordeaux, c'est 42 millions d'euros. Saint-Étienne, c'est 27 millions d'euros. C'est 27 millions d'euros. Je crois Auxerre, c'est 22 millions d'euros, quelque chose comme ça.
Voilà.
Ce qui veut dire qu'on a, et Laval, je ne connais pas celui de Laval, mais il ne doit pas être non plus très, très, très élevé. Ça veut dire qu'en Ligue 2, on a des équipes, les équipes qui ont les plus petits budgets. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans le foot. Voilà.
Heureusement, heureusement.
Ouais.
Heureusement. Hein. Donc effectivement, le Paris FC qui bat Annecy 2-1, ça c'est la bonne nouvelle du club du 13e. Donc Angers en tête avec 40 points, devant Auxerre qui peut quand même passer ce soir donc en tête, qui est deuxième avec 38 points. Le troisième, donc on en parlait, c'est Grenoble et Laval, 35 points, et Pau 5e, 31 points. Et puis Rodez, ils sont 6e avec Guingamp, le Paris FC et l'AC Ajaccio, 30 points. Et par contre, en bas de tableau, c'est très serré. Hein. 17e Annecy, 19 points. 18e Quevilly-Rouen avec 17 points, 19e Dunkerque 14 points et 20e Valenciennes 11 points. Je crois que les clubs nordistes sont condamnés malheureusement.
Bah, ils ont du mal, non, bah, je sais pas parce que c'est quand même très très serré. Aujourd'hui, Quevilly-Rouen a décidé de changer d'entraîneur. Hein, Olivier Chouafny.
Il y a un petit trou quand même.
Hein. Olivier Chouafny a été écarté. Je pense que c'est une énorme bêtise. Ils ont fait une énorme bêtise parce qu'ils ont fait des résultats assez surprenants. Quevilly-Rouen, j'avais le sentiment que l'entraîneur, il était. Et puis il y avait l'exemple de Laval l'année dernière qui a eu des traverses aussi, un passage à vide. Je pense que c'est une bêtise d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais moi, je parierais pas sur. C'est vrai qu'on a des équipes, peut-être Annecy, qui a pris un énorme coup sur la tête la dernière journée avant la trêve, quand il y a Rodez, leur entre guillemets, déclaré ennemi juré par le président d'Annecy, qui est venu gagner à Annecy. Ils ont pris un gros coup sur la tête. Là, ils reperdent encore derrière. Ça va être très dur pour eux. C'est évident. Hein, c'est aussi un des plus petits budgets de la Ligue 2, mais je pense que ça va encore jouer, ça va être très très chaud jusqu'à la fin. On a vu la saison dernière, hein, il y a des équipes qui étaient, il y a quatre qui descendent, alors peut-être tout en bas c'est mort, mais sinon des équipes comme Bordeaux, comme il y a plein, même Bastia qui a gagné la bombe. Bastia, c'est un peu particulier, mais il y a plein d'équipes qui sont encore loin d'être à l'abri.
Oui, alors il y aura une journée donc cette semaine donc le 23, il y aura deux journées pardon. Les deux prochaines la prochaine semaine, il y aura une journée mardi le 23 et puis l'autre le week-end le 27. Alors en national, 17e journée, le Red Star qui s'impose devant Orléans 2-1, victoire de Niort le second au Mans 2-0 et puis Versailles battu par le Gol FC 2-0. À noter que Nancy allait gagner à Châteauroux 1-0 et que Sochaux jouait devant Nîmes à 18h15 tout à l'heure. Donc le Red Star en tête avec 39 points, devant Niort, deuxième 30 points. Versailles et Orléans se partagent donc la 11e place avec 21 points. Fabuleuse équipe de Sochaux quand même, qui avait débuté très bas et qui est tout près du top 5. Hein.
Ah ouais, qui est tout près du top 5. Et puis je vous le disais, hein, je vous en avais parlé, j'avais eu le président Plessis il y a quelques semaines et qui me disait qu'ils se sentaient vraiment bien, qu'ils avaient... son groupe lui faisait penser un peu à l'époque des Pedretti, Pierre-Alain Faux, quand il avait un groupe exceptionnel qui était né, qui avait fait monter Sochaux. Je crois qu'ils ont même été jusqu'à la Coupe d'Europe, je crois peut-être. Donc, ils ont été très haut aidés. J'ai l'impression qu'on revit quelque chose comme ça. Alors, ça sera peut-être cette année, si c'est pas normalement pour cette année, ça sera peut-être l'année prochaine, mais en tout cas très rapidement on va viser un retour. Si ce n'est quand même qu'il faut savoir que le président Plessis le dit lui-même dans une interview qui est passée il y a quelques jours sur notre site, que le club de Sochaux va mieux, mais le club de Sochaux n'est pas sauvé en l'état actuel. Mmh, ils ont encore besoin d'argent pour pouvoir. Ils sont sûrs de terminer la saison, mais ils ont quand même encore besoin d'argent pour pouvoir passer la saison prochaine.
Mmh. Allez, un petit mot de National 2. On en parlait avec notre ami Eman, hein, le maire adjoint chargé des sports du 13e. Défaite du Paris Atlético pour la 13e journée à Blois 2-0. Ce qui fait que le Paris Atlético est quand même 3e pour l'instant à égalité avec La Roche-sur-Yon, Saint-Pierre, Saint-Hilaire et Romorantin. 19 points. Ils ont un match de moins, mais ils sont à 5 points du leader, les Herbiers. Le foot féminin, Stéphane, puisque on va quand même rappeler que Lyon continue à survoler le championnat. Hein, les Lyonnaises qui avaient fini l'année en allant faire 2-2 chez les Finlandaises à Bergen en Ligue des Champions sont en tête de leur poule avec 10 points. Le Paris Saint-Germain avait gagné à Rome 3-1 et le Paris FC avait gagné à Madrid 1-0. Le PSG est deuxième à 1 point d'Ajax. Donc, vous voyez, le PSG donc, remonte. Et le Paris FC troisième, 6 points à 2 points de Chelsea. Donc ça veut dire que les trois clubs finalement féminines françaises peuvent encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Je dis ça parce qu'il y a une journée cette semaine.
Ouais, tout à fait. Bah, pour le Paris Saint-Germain et quoi, pour Lyon qui est déjà qualifié d'ailleurs, et pour le Paris Saint-Germain, ça paraît quand même être de la moindre des choses. Maintenant, le Paris FC, ça serait un joli.
Ils peuvent le faire. Hein.
Ouais, bien sûr qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs là. C'est vraiment une très très bonne équipe et la dernière journée de ce week-end, je crois que la dernière journée quoi, de D1 Arkema, ils ont été à deux doigts d'accrocher l'Olympique Lyonnais. Hein. Je crois que Lyon marque à la 85e minute ou quelque chose comme ça, ils gagnent 1-0. Hein,
ouais, c'est ça. Lyon gagne. Hein,
par Agerbeck, donc qui a fait un énorme match d'ailleurs ce jour-là. Donc non, c'est une très très bonne équipe et je crois que de toute façon pour ce qui est du championnat, une bagarre entre les deux paris pour savoir laquelle équipe sera deuxième et laquelle sera troisième. D'après moi, ils n'ont pas beaucoup d'adversité. Puis en Ligue des Champions, normalement, ça devrait se concrétiser pour le Paris Saint-Germain. Puis j'espère que le Paris FC, en tout cas, a largement les moyens, a montré qu'il avait les moyens de, quand on voit un match contre celui que les filles ont fait contre Lyon, elles ont largement les moyens de batailler pour se qualifier en Ligue des Champions.
Ouais, Lyon toujours invaincu malgré sa courte victoire donc contre le Paris FC 1-0. PSG a écrasé Lille 6-0. Donc tu le disais, Lyon en tête 36 points. Le PSG et le PFC sur la même ligne avec 25 points. Mais attention, il y a deux matchs en moins pour le Paris Saint-Germain. Deux matchs à jouer. Hein.
Donc deux matchs
en retard pour le PSG.
Je ne rappelle plus les adversaires. Il y a Guingamp, je crois, et un terrain impraticable. Et puis il y en a un autre, il y avait eu des...
Oui, des incidents. Oui,
des incidents à quelques centaines de mètres du stade. Il y a pas de mesures de sécurité. Ils ont décidé de ne pas faire jouer le match. Donc, il y a deux matchs de retard. Bon, c'est cuit pour le titre. Il faut plus trop y penser. Mais maintenant, il faut essayer, pourquoi pas, faire un coup pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, là, du coup, faire un coup en Ligue des Champions.
Alors, la CAN, bon, on va très brièvement en parler, on laissera l'ami Malik le faire, hein, même s'il y a quelques résultats un petit peu surprenants depuis le début de cette épreuve. Nigeria, Guinée équatoriale, un partout. L'Égypte, tenue en échec par le Mozambique, 2-2. Et puis le Cap-Vert, qui va gagner contre le Ghana, 2-1. Mais enfin, j'ai coutume de dire que c'est un petit peu ça, ces grandes compétitions au début. Puis après,
c'est souvent ça, hein, on se rappelle.
Voilà. Après, ça se...
Quand je voyais le...
Bon, les Coupes du Monde et l'Euro, c'est pareil.
L'Égypte égalise dans les arrêts de jeu sur un pénalty. Mais c'est très, très chaud. Ils ont eu très, très chaud. Mais quand je voyais ça, je pensais tout de suite, bien sûr, à l'Argentine, hein, qui a perdu contre l'Arabie Saoudite son entrée dans la compétition, et puis qui après a eu plus de mal, quoi. Donc c'est des équipes qui, de toute façon, ne partent pas dans la compétition pour gagner, pour écraser tout de suite dès le début, quoi. Alors, ceci dit, quand tu arrives à le faire, comme c'est le cas, par exemple, il y a quand même, je pense que la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a peut-être été un peu embêtée la première période, malgré tout, la Côte d'Ivoire a montré quand même aussi un sentiment de puissance. Et le Sénégal, j'en parle pas effectivement. Donc maintenant, en tout cas, les gros restent quand même là. Le Ghana, on avait parlé que personne ne comptait vraiment sur le Ghana, le Cameroun non plus, je ne sais pas s'ils ont fini par marquer, ils étaient, non, je crois qu'il y avait un partout, ils n'arrivaient pas à marquer le deuxième but, et donc bon, voilà, quoi, les gros sont là, même s'il y a des surprises, je pense qu'on retrouvera les gros à la fin.
Absolument. Merci Stéphane pour ce point foot. On se retrouve dans quelques minutes hein, avec un bout du foot, c'est
ouais,
ça ?
Ok, pas de soucis. Hein, pas de soucis.
Avec bah, Malik.
Bonsoir à tout le monde. Et puis à tout à l'heure.
Ouais. À tout à l'heure. Voilà. Merci Stéphane. Je voulais finir juste un petit rajout concernant
petit
le patinage artistique.
Rajout, voilà,
j'avais promis de te. Voilà.
Concernant les championnats d'Europe, oui, il y avait aussi en danse sur glace un troisième couple qui a fait une très belle 12e place. Il s'agit de Marie Dupaillage et Thomas Nabé. Et puis chez les messieurs, on a aussi eu Luc Economides qui disputait son premier championnat d'Europe et qui a fini 15e. Et surtout en danse sur glace, la France a démontré son excellence technique et artistique. Et c'était à souligner parce qu'on ne l'a pas assez souligné. Donc voilà.
Il fallait le faire. Voilà pour ça qu'il fallait finir cette émission bien chargée et bien remplie ce soir de cette façon. Merci Vanessa.
Merci à toi.
Hein, je remercie merci Stéphane donc, qui va réintervenir tout à l'heure. Merci à Laura pour sa ouais, table dans le journal des sports. Eman Bassoni, lui, on l'a eu, donc on va le remercier aussi. Eh bien écoutez, je vous laisse entre bonnes mains avec l'ami Malik au bout du foot. Dans quelques minutes, le foot sous un autre regard. Et nous, on termine. Merci à Jason et puis à Léonard aussi d'avoir été aux manettes ce soir. Et on termine avec Section d'Assaut, c'est ça. Je ne me suis pas trompé, désolé. Bonne soirée à tous et à tous. Rendez-vous à la semaine prochaine. Tiens, on aura un arbitre la semaine prochaine. On aura M. Bruno Dorien en personne qui viendra tout nous dire sur les lois de l'arbitrage dans le foot actuellement. Voilà, allez, bonne soirée à toutes et à tous. Au bout du foot avec Malik et notamment la CAN dans quelques instants. Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Moi aussi, les frères, je vais me barrer. Rejoindre tous les miens, les dingaris. Paris, c'est Alcatraz. Marre des amandes et tous ces tas de paperasses. Leur cœur est noir et fin comme un Sénégalais. À les entendre, on croirait que saigner fallait. Moi je veux ma femme, mon dîner, mes gosses. Pour ça crois-moi j'emploierai bien toutes mes forces.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Pardonne ma grand-mère s'il te plaît. J'serais revenu te voir si j'avais plus de blé. Mais t'sais ici non plus c'est pas facile. En France la reste nous met des bafoussis. Désolé aux profs de maths, d'anglais et de français. Vous inquiétez pas mon père m'a bien défoncé. Désolé monsieur le banquier. Mais si je m'arrache vous allez pas me manquer.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Maman, papa, je vous dis on diarama. Je sais que dans vos têtes, vous êtes déjà là-bas. J'ai beau dire que je l'aimais, j'ai pas la foi. J'ai fait le congé, commencé par la fin. J'aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit. T'écouter, papa, étant petit. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays coupable.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé.